du bain.
Boulevard. 102-1.
Tout l'été. Summertime. Vous tiens informé. Boulevard Against le matin. Avec Jeff Fortin et Jacinthe Varel. Marceau le midi. Avec Yann Marceau et Pascal CV. Le retour de Boulevard en direct du FEC. Avec Reg Laplanche, Audrey Pinchot et Max Larouche. Boulevard 102.1, la radio qui t'accompagne partout. Au FM 102.1, l'application mobile et le blvd.fr.
Boulevard 102.1.
Une propriété Leclerc Communication.
Salut, bonsoir Québec, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1. Mon nom c'est Yannick Marceau, je t'accompagne pour les 60 prochaines minutes en espérant que tu aies passé une belle journée. Juste avant de te présenter mon invité de ce soir, on va regarder ce qui se passe à la météo. On a, Environnement Canada nous parle d'orage pour ce qui est de ce soir. Partiellement nuageux avec un minimum de 12. Des probabilités d'orage, je vous dirais à 40% là, selon Environnement Canada. Pour ce qui est de demain vendredi, ben, une belle journée ensoleillée. Un minimum de 11, un maximum de 24. Pour ce qui est de l'indice humidex, ça va être autour de 26 degrés comme ressenti si on atteint le maximum. Samedi, ce sera ensoleillé avec un maximum de 25 et dimanche, ce sera de la pluie avec un maximum de 24 degrés. Mon invité de ce soir avec qui j'aurai le plaisir de m'entretenir pendant 60 minutes si ma voix tient le coup, eh bien, ce sera l'exceptionnel Pat Laprade, un auteur, un historien, un animateur de la lutte sur Netflix. Donc, on va parler de lutte, bien entendu, et de bien d'autres choses dans les prochaines secondes, je pèse sur le piton.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir. Le soir.
Quel plaisir de le retrouver ce soir. C'est Pat Laprade, un historien de la lutte et un animateur de lutte que vous connaissez depuis déjà quelques années. Maintenant, il est rendu sur Netflix dans la grosse ligue. Salut, Pat Laprade.
Hey, salut, comment ça va?
Ça va très bien. Je suis très content de te jaser. On a parlé, on a fait plusieurs chroniques ensemble. Puis à chaque fois, tu réussis à embarquer mes auditeurs qui ne traitent pas pantoute sa lutte. Fait que ça fait en sorte que je me dis, coudonc, ce gars-là, il a un don. Un don de parler de sujets que des fois, ça t'intéresse pas au départ, puis après ça, ben t'embarques dans le sujet en disant « Caroline, je pensais pas triper, puis j'ai trippé avec vous autres à soir. » Fait que je suis pas mal persuadé que je vais avoir ce genre de commentaires-là après l'émission. Donc, merci d'être là, c'est très, très, très apprécié. Qu'est-ce qui t'a amené vers la lutte, Pat?
Hey boy! Une question à 100$. Non, j'étais tout jeune. J'avais 6 ans. Mon père m'a amené à mon premier show de lutte au Centre Paul Sauvé à Montréal, le défunt Centre Paul Sauvé. Je me rappelle aucunement de l'événement ou du spectacle ou des lutteurs qu'il y avait là ce soir-là. Mais je me rappelle juste que quand ma mère m'avait annoncé la nouvelle, parce qu'elle avait appelé mon père, genre, d'un téléphone public à l'époque, puis mon père au travail, il lui avait dit, hey, dis à Patrick que je vais l'amener à la lutte à soir. C'était un lundi soir, bien, un lundi après-midi, quand j'ai eu la nouvelle, je capotais, j'étais vraiment, vraiment content. Ça, j'ai un souvenir de ça, mais je me souviens plus du reste de la soirée.
Ouais.
Mais après ça, j'ai commencé à écouter la lutte tous les dimanches matin à Télé 7 Sherbrooke. Je pense qu'à Québec, c'était Télé 4 à l'époque. Oui, c'est ça, à Montréal, c'était Télé 7 Sherbrooke. J'ai commencé à écouter ça religieusement. Si je ne jouais pas au hockey, je n'avais pas une pratique ce dimanche-là, c'est sûr que j'écoutais la lutte. J'écoutais même la fin de l'Évangile en papier pour être sûr de ne pas manquer la lutte.
Oui, bon, on était une méchante gang devant nos écrans quand le show de lutte passait. Puis, tu sais, des fois, la mémoire, c'est une mémoire qui est particulière parce que tu vas essayer de te souvenir de quelque chose puis tu vas toujours améliorer ce souvenir-là. Toi, tu me dis que tu ne te souviens pas de la carte. Moi, je me souviens d'avoir été pour la première fois avec mon père au Colisée de Québec. Mon père, c'était un amateur de lutte. Là. Il parlait aux lutteurs à travers la télé, il me faisait capoter. Je me dis, je fais partie d'une famille de débiles. Mon père a l'impression que les lutteurs l'entendent pendant qu'ils sont en train de faire leur combat. Puis plus tard, je pensais que j'avais été à la Tour à Québec. Puis, parce qu'il y avait une tour à Québec là, dans laquelle il y avait des galas de lutte. Pour les auditeurs qui n'avaient jamais entendu parler de cet endroit-là, ça s'appelait la tour. Puis à un moment donné, mon grand-père m'avait dit, Yann, t'étais même pas né. Tu peux pas avoir été là. C'est que mon père me parlait des shows qu'il allait voir avec son père à la tour. Puis moi, ces souvenirs-là ont été ancrés en moi en me disant, mais il semble que j'ai été à la tour, mais j'ai jamais été parce que quand je suis né, la tour n'existait plus.
D'ailleurs, la tour qu'on voit, qu'on a vue dans l'exposition de lutte qu'il y a eu au Musée de la civilisation
exact.
Avec Robert Lepage et toute sa gang, il y avait une maquette de la tour. Puis, tu sais, je me souviens, on a fait des émissions, toi puis moi, une heure de temps, on ouvrait les lignes, puis les gens nous parlaient de la tour. Ça a marqué les gens à Québec. Plus, on dirait quasiment plus que le Colisée, c'était mythique. Il y avait quelque chose de mythique dans la tour. Tu sais, à Montréal, ben, c'était le forum. Tu sais, c'était le vieux forum. Ça a été le forum qui a passé à travers différentes rénovations. Mais c'était le forum. Tu sais, c'était l'endroit privilégié pour aller voir de la lutte, de prédilection pour aller voir de la lutte. Mais ouais, la tour, écoute, un des Baillargeons, Paul Baillargeon, Yvon Robert.
La famille Baillargeon. Ah ouais.
Fabien Baillargeon, mais entre autres Paul contre Yvon Robert à la Tour de Québec. C'est un match que les gens se sont souvenus pendant longtemps, le retard d'assistance là-bas à la Tour. Là, mais effectivement, je te disais, je t'entendais, puis j'étais là, il me semble que tu n'étais pas né quand la Tour a arrêté d'avoir
mais c'est des souvenirs d'avoir de la lutte. C'est des souvenirs que mon père me racontait, puis on dirait que ma mémoire a intégré ça. Puis sérieux, là, mettons que tu m'avais mis sur un détecteur de mensonges, je pense que je l'aurais réussi parce que j'étais parfaitement convaincu. Convaincu que j'y avais été. Puis quand je me suis fait dire « Non, Yann, t'étais pas né », j'ai halluciné parce que j'avais même des images dans ma tête. Puis quand j'avais été voir l'exposition de Robert Lepage, je me suis dit « Écris, c'est pas là pantoute.
» Moi, j'avais la chance, j'avais un père qui était plus vieux.
Ouais.
Mon père est né, il est décédé maintenant, mais il est né en 1931. Donc, il avait 20 ans de plus que ma mère. Alors, mon père, lui, me racontait des souvenirs de lutte d'une autre époque que même ma mère, à la limite, n'avait pas connu, tu comprends? Donc, des souvenirs de lutte que, je sais pas moi, les grands-pères de mes amis leur racontaient, mais tu vois pas ton grand-père comme tu vois ton père. Avec mon père, il me racontait un peu. Tu sais, mon père, il était au Forum de Montréal pour l'émeute, là, avec Maurice Richard et tout, là. Tu sais, je veux dire, il a vécu une toute autre époque, puis il me racontait. Moi, il y a des noms de lutteurs là, que j'ai grandi avec qui disent rien à personne, à part quand j'ai commencé à rencontrer, tu sais, des vétérans du métier, les Gino Brito, les Paul Leduc, etc. Là, c'était des noms qui leur disaient quelque chose, mais tu sais, j'avais cette chance-là d'avoir deux parents, tu sais, à 20 ans de différence, qui avaient chacun leur souvenir. Ma mère qui tripait lutte aussi plus jeune, mon père également. Donc ça, c'est peut-être une chance que j'ai eue puis qui a amené à ce que, tu sais, je sois de plus en plus intéressé à lire puis à m'instruire sur l'histoire de la lutte au Québec.
Parce que la tour, telle qu'on l'a connue avec la lutte, les combats de boxe qui avaient lieu à l'intérieur, c'est 1930, là, parce qu'avant, ça servait à d'autres choses, mais après ça, on l'a converti en salle de théâtre. De 1930 jusqu'à 1935, donc je ne suis pas un spécialiste en mathématiques, mais elle était d'office 35 ans là, pour ce genre de spectacle-là.
De 1930 à quelle année, tu as dit?
1965.
Ah, 1965, oui, c'est ça. J'aurais guessé le début des années 60, avec probablement l'époque la plus populaire a été là, la décennie 40-50. Là, parce que c'est là qu'Yvon Robert a commencé à être populaire à Montréal, mais un peu partout au Québec. C'est là que les Baillargeons sont arrivés. La télé est arrivée également au début des années 50. Donc, ça a créé un boom également pour la lutte professionnelle. Fait que les années 40-50, ça a été les deux grosses décennies en ce qui a trait à l'âge d'or de la lutte au Québec ou ce premier âge d'or de la lutte-là.
Pour ce qui est de la lutte, Pat, est-ce que le Québec fait différent des autres provinces? Est-ce que la lutte fonctionne plus au Canada? C'est au Québec qu'il y a une grosse popularité ou c'est à la grandeur du Canada?
Là, tu parles maintenant, avant?
Maintenant ou avant? C'est toi l'historien.
mais je veux dire, historiquement parlant, je te dirais Montréal particulièrement est la plus grosse ville de lutte qu'il y a jamais eue au Canada.
Okay,
plus que Toronto.
Wow, okay,
bien,
wow.
Bien plus que Toronto. Parce que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lutteurs qui sont venus de Montréal. Le forum a été. Le forum marchait beaucoup plus que le Maple Leaf Gardens en ce qui a trait à la lutte. Donc, historiquement, oui. Par contre, dans les 20-25 dernières années, Toronto a quand même repris du poil de la bête parce que c'est devenu plus le centre de la lutte au Canada dans les 2-3 dernières décennies. Tu sais, Montréal a quand même eu des bons, T'sais, des bons moments, le Montreal Screwjob, c'est quand même, ça va toujours être appelé Montreal Screwjob, Shawn Michaels contre Bret Hart, et bon, il y a le mot Montréal dedans, ça va être lié à ça à jamais. Plus récemment, en 2023, l'ovation de Sami Zayn à Montréal à Elimination Chamber dans son match contre Roman Reigns, puis la veille à SmackDown, c'est des moments incroyables. Puis ça, c'est ce genre de moments-là qui sont durs à répliquer ailleurs. T'sais, on a un attachement spécial envers nos stars en train, tu sais, envers nos vedettes, peu importe le milieu, que ce soit dans le sport ou dans le divertissement. Et puis, ben, ça se voit, là. Ça se voit quand il y a des situations comme ça. Les Kevin Owens, les Sami Zayn reçoivent. Ouais. Oui, c'est sûr, à travers le Canada, ils sont populaires, mais jamais comme ils le sont au Québec, jamais comme quand ils viennent au Centre Vidéotron ou au Centre Bell dans les dernières années. Fait que, tu sais, il y a un attachement spécial par rapport à ces athlètes-là qu'on a toujours eu dans le passé. Tu sais, l'aspect francophone n'est pas à négliger, hein. Les vedettes francophones ont toujours brillé, ont toujours reçu la chaleur du public, que ce soit un Québécois ou même un Français. Tu sais, Édouard Carpentier était français et c'était un des lutteurs les plus populaires de l'histoire du Québec. Le géant Ferré également. Puis évidemment, ben, tu as les Québécois pur laine, les Yvon Robert, les Rougeaux, les Vachon, Ricky Martel, Dino Bravo, tu sais, ça a été maintenant, aujourd'hui.
Ouais, c'était le sentiment d'appartenance, Pat, qui a fait en sorte qu'on avait l'impression que la lutte, ça fonctionnait à planche au Québec. Moi, je suis né au début des années 80. Mon père est né en 53. Puis lui, son père à lui suivait la lutte. Il allait régulièrement à la tour voir des matchs de lutte puis des combats de boxe. C'est vraiment le fait qu'il y a des Québécois, tu penses, qui a fait en sorte qu'on est embarqué un peu plus que les autres dans la lutte au Québec?
Je ne sais pas si c'est pour ça qu'on a embarqué plus, mais c'est définitivement pour ça qu'on avait des vedettes qui étaient beaucoup plus populaires ici que des vedettes locales ailleurs dans d'autres provinces. Whipper Billy Watson est peut-être le lutteur le plus connu et populaire à être venu de Toronto, mais nous, on en avait beaucoup des gars comme ça ici, parce qu'il y avait cet aspect-là qui nous rendait unique, qui nous rendait différent. Tu sais, des lutteurs anglophones, là, pour un Québécois, tu sais, qui va à la lutte, qui parle pas anglais, se faire parler en anglais, que tu viennes du Manitoba, de Toronto, ou du Texas, ou de New York, tu fais pas vraiment la différence. Donc, il parlait anglais, c'est une langue qu'il ne comprenait pas. Mais dès qu'il parlait français, là, tu fais comme « Oh, OK, lui, je suis attaché à lui. » Fait que de facto, souvent, puis c'est encore le cas aujourd'hui, tu vas à la NSPW à Québec, par exemple, si tu veux être « heel », si tu veux être méchant, parle anglais. C'est pas compliqué des fois, mais tu n'as pas ça dans les autres provinces parce que, je veux dire, j'ai rarement vu quelqu'un arriver et parler français, mettons, dans un show à Toronto, puis que ça marche vraiment, puis qu'il y ait de la heat, qu'il y ait de la chaleur, qu'il y ait de la réaction. Ouais. Mais ici, ça marche encore. Pendant longtemps, ça a marché encore plus que ça marche aujourd'hui avec cet aspect-là, bien sûr, parce que le monde est plus ouvert, puis il est plus petit qu'il l'était à l'époque où il n'y avait pas de réseaux sociaux, pas d'Internet. Puis bon, tu vivais dans ta ville, dans ton village, puis tu ne savais pas trop ce qui se passait autour. Donc, l'aspect francophone est encore plus important parce que tu pouvais t'identifier à ces vedettes-là. Et à partir du moment que quelqu'un gagnait en popularité, ben là, c'était la masse au complet. T'sais. Regarde juste dans les autres sports. Le MMA, les arts martiaux mixtes, ont eu une chute quand Georges Saint-Pierre a arrêté de combattre. Ils sont pas venus, UFC d'ailleurs n'est pas venu ici depuis 10 ans, puis ils n'étaient pas venus ici depuis 10 ans avant qu'ils viennent il y a quelques semaines. Je veux dire, il n'y a pas personne qui a remplacé Georges Saint-Pierre, puis la popularité du MMA n'a jamais eu la même notoriété, le même degré. La F1, ça a beau être encore populaire aujourd'hui, ça n'a jamais été autant populaire que quand Jacques Villeneuve était là, puis avant ça, Gilles, mais ça a pogné un pic, je pense, encore plus avec Jacques Villeneuve.
Pour les plus vieux qui nous écoutent, on avait un combattant là, qui était champion au kickboxing, Jean-Yves Thériault, ça se peut-tu?
Jean-Yves Thériault en kickboxing. Le kickboxing n'a plus jamais été aussi populaire. Exact. Que lorsque. Puis Jean-Yves Thériault, c'était pas un Québécois, là, si je ne me trompe pas, c'est un gars d'Ottawa, mais c'est un francophone, c'est un franco-ontarien. Mais encore là, ça fonctionne. Il parle français.
Exact.
Il parle notre langue. Donc, ce sentiment d'appartenance-là à la langue, je te dirais, c'est ce qui a aidé dans ben, ben, ben. Regarde juste le poker. C'est niaiseux, mais le poker a eu une hausse de popularité au Québec quand Jonathan Duhamel a gagné les séries mondiales de poker. Tu sais, oui, c'est resté, puis une fois que c'est là, ça reste un certain temps, mais ça a des pics, ça a des sommets de popularité quand il y a un Québécois qui se distingue, un Québécois habituellement francophone qui va se distinguer dans une discipline quelconque. Puis à ce moment-là, on le suit, on embarque, on le supporte, puis la lutte fait pas la lutte est incluse là-dedans.
Pourquoi j'ai pu la lutte sur le 2 ou sur le 4 ou sur le 11, tu sais, sur les postes généralistes? Qu'est-ce qui fait
qu'on,
comme
parce qu'on dit plus ça. Le 2, le 4, le 11.
Ouais. Hey, mets donc le Gérald au 2. on disait ça dans le temps.
Là, t'en as perdu une coupe là.
Avec
là,
le Gérald. Après ça, il y a eu le vidéo way. Tu te souviens-tu du vidéo way? Mais pourquoi on a plus ça sur les postes généralistes? Bon Dieu que c'était divertissant. Puis les jeunes enfants qui étaient peut-être issus de familles un peu moins bien nanties pouvaient découvrir ce magnifique sport-là, tu sais, qui est très théâtral, mais c'est un sport, là.
C'est un mix de plusieurs choses. T'sais. C'est un mix de la venue du câble, les chaînes spécialisées, la business, la lutte aussi a changé. T'sais, dans les années 80, quand j'écoutais la lutte le dimanche matin, c'était une heure de temps. Et là, à un moment donné, ben, les shows ont augmenté en longueur. Tu sais, Raw est arrivé avec la WWE. Puis au début, c'était une heure. À un moment donné, c'est devenu deux heures. La WCW est arrivée. Puis tu sais, on parle de ça comme c'était hier, mais on parle de ça, c'est en 86, c'est milieu des années 90. Là, ça fait 30 ans ou bientôt 30 ans. Donc, tu sais, beaucoup de choses ont changé depuis ce temps-là. Puis je pense que c'est pour ça que les mœurs ont également changé au niveau de... Tu sais, tu verrais-tu TVA présenter 3 heures de lutte non-stop? Tu sais, on le fait même pas pour le hockey, puis je dis TVA comme Radio-Canada ou peu importe la station. Tu sais, les sports sont rendus centralisés sur les chaînes sportives. Même Radio-Canada, tu sais, en diffuse... Bon, il a recommencé un petit peu avec le hockey féminin, mais on en diffuse beaucoup moins qu'avant. Maintenant... On est rendu même ailleurs de ça. Tu sais, TVA Sport a ramené la WWE à la télévision francophone en 2017 avec Kevin Raphaël et moi. On a eu une belle run pendant un peu plus de 7 ans. Et là, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est Netflix qui a repris ça. Donc, Netflix. Fait que là, on est passé des chaînes généralistes aux chaînes spécialisées. Et là, c'est rendu les plateformes web. Tu sais, les sites de streaming, les Netflix, Crave... etc. de ce monde qui Amazon qui bide pour du sport, qui bide pour à peu près tout. T'sais, on voit des roasts, on voit la NFL est sur Netflix, puis sur je me trompe pas sur Amazon, mais je veux dire, il y a plein Prime le hockey. C'est fou maintenant où c'est rendu. Et puis je pense que c'est comme n'importe quoi d'autre, Yannick, c'est une évolution. Puis c'est l'évolution de la télévision parallèlement avec l'évolution de la lutte professionnelle qui fait en sorte qu'on ne trouve plus ça.
Tu sais, Pat, moi, de mon côté, je suis pas né dans une famille très, très bien nantie. Ma mère était monoparentale, devait me faire garder pour aller travailler. Écoute, on partait avec deux prises dans la vie, mais j'avais la télé. J'avais le 2, le 4 puis le 11. Puis j'ai appris à écouter les Nordiques de Québec. J'ai appris que le hockey existait parce qu'il y avait les Nordiques de Québec dans le temps. Par la suite, il y a eu le Canadien, mais je le voyais à la télé généraliste. Puis j'ai commencé à jouer au hockey parce que j'ai vu ce sport-là qui était accessible à la télé. Waouh, tu sais, je veux faire ça moi aussi. Puis après ça, j'ai embarqué sur les patins, puis je suis devenu un joueur de hockey. Bon, je pensais faire la Ligue nationale, mais j'étais trop petit. mais c'est la télé généraliste qui m'a apporté vers le hockey. Est-ce que, tu sais, puis ce qui m'a intéressé à la lutte, c'est la télé généraliste aussi. Avez-vous l'impression qu'on va aller chercher une base de clientèle peut-être différente avec les Netflix de ce monde ou les YouTube payants de ce monde? Parce que les gens vont embarquer peut-être un peu plus tard dans l'aventure.
Bien, pas nécessairement, parce que je te dirais, il y a les réseaux sociaux aussi qui aide énormément. Tu sais, t'es peut-être pas abonné à Netflix ou tes parents sont pas abonnés sur Netflix, donc tu peux peut-être pas écouter la lutte, mais je veux dire, il y a plus, tu sais, nous on avait la télévision quand on était petits, là.
Ouais.
Maintenant, les jeunes ont des cellulaires très, très jeunes et très, très tôt, ou des tablettes. Fait qu'ils vont, ils vont voir les Reels, ils vont voir les TikTok, ils vont voir des extraits vidéo, ils vont sur YouTube. Fait que je veux dire, ils sont exposés à ce produit-là, puis ils peuvent être exposés à la lutte assez facilement. puis faire comme hey, ça a l'air cool ça, et s'intéresser davantage. Puis à cette heure, ce qu'on n'avait pas non plus à l'époque, tu sais, t'aimais les Nordiques, t'écoutais les Nordiques à la télé, c'était une partie. Si tu voulais savoir ce qui se passait après, il fallait que tu regardes dans le journal, puis ça ne te donnait pas nécessairement tout. Mais à cette heure, ben, tu étais à deux clics d'aller sur Wikipédia puis de te renseigner, hey, c'est qui ce lutteur-là, c'est qui elle, c'est quoi la lutte. Tu peux facilement, tu vas demander à ChatGPT de te faire un résumé de 1000 mots de c'est quoi la lutte, tu vas lire ça, tu vas t'intéresser. Bon, il y a plein, il y a beaucoup plus de moyens maintenant de s'intéresser à la lutte puis d'être, j'allais dire confronté, mais pas nécessairement confronté, mais d'avoir de la lutte dans ton espace web, dans ton espace-temps, que ça pouvait l'être à l'époque, tu sais, parce qu'à l'époque, bon, oui, on avait moins de postes de télé, mais en même temps, si tu jouais dehors au hockey, tu n'écoutais pas la télé. Donc, s'il y avait de la lutte, puis toi, ben, tu ne l'as pas écouté parce que tu jouais au hockey, il n'y avait pas de reprise. Tu ne pouvais pas nécessairement l'enregistrer. Tu ne savais peut-être pas c'était quoi.
Très bon point.
Alors qu'aujourd'hui, c'est totalement
C'est
différent.
vrai. Nous autres, il y avait la messe, puis après ça, il y avait la lutte. Fait qu'on laissait passer la messe, puis après ça, on écoutait la lutte avec M. Carpentier. Rendez-vous la semaine prochaine, si Dieu le veut!
Exactement.
Comment Netflix a approché Pat Laprade? Ça s'est fait comment, ça, ce merge-là?
Ça, c'est une histoire qui est vraiment, vraiment cool, puis ça me fait toujours plaisir de la raconter parce que, tu sais, tu es dans les médias depuis longtemps, la loyauté dans les médias, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on voit souvent, tu sais, c'est dur, tu sais, tout le monde joue un peu pour lui-même, puis c'est pas nécessairement une business qui est facile. Moi et Kevin, on travaille ensemble depuis 7 ans, et la WWE a approché Kevin en premier. Puis c'est correct, ça ne m'a pas dérangé. Puis je ne savais pas à ce moment-là, mais quand je l'ai appris, ça ne m'a pas dérangé. Kevin, bon, une présence sur les réseaux sociaux beaucoup plus volumineuse que la mienne. On a des énergies différentes et tout. Puis bon, bref, ils ont approché Kevin en premier. Kevin, ils voulaient faire travailler Kevin avec un Français. Donc, c'était pour être les voix de la lutte francophone au Canada. Donc, sur Netflix Canada, il y avait déjà une équipe en France, mais on voulait faire travailler Kevin avec un Français. Et Kevin a dit, ben non. Moi, je travaille avec Pat Laprade. Et là, ils ont dit, OK, mais ils regardent, on a déjà une équipe. Ça fait 7 ans qu'on travaille ensemble, on est déjà rodés. Vous n'aurez pas de trouble avec nous. On sait déjà ce qu'on fait. Parce que là, dans le fond, la WWE, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle allait chercher 21 équipes différentes dans des langues différentes. Donc, il y en a dans certains pays ou pour certaines langues qui n'avaient jamais commenté de lutte, point. Alors, nous, on arrive, puis on a déjà 7 ans d'expérience ensemble. On a déjà une chimie. On triple lutte depuis qu'on est tout petit. C'est un gros avantage pour eux autres, et c'est là-dessus que Kevin a joué. Il ne m'en a pas parlé jusqu'à ce qu'un jeudi matin, je reçoive un courriel, fin novembre, début décembre de l'année passée. C'est la WWE, quelqu'un avec qui j'avais déjà parlé une fois ou deux, là, mais je le connaissais moyen. Puis il me dit, Pat, tu pourrais-tu m'appeler? On aurait une opportunité pour toi. Et là, il me propose de faire les commentaires sur Netflix. Je dis, wow, OK. Fait
qu'évidemment, j'avais. Tu as dit, attendez, monsieur, laissez-moi quelques semaines pour y penser et je vais vous revenir.
Exact. Et parallèlement à ça, j'avais appelé Kevin avant pour savoir, tu sais, c'est quoi cette affaire-là? T'as-tu été appelé? Puis là, c'est là qu'il m'a raconté sa partie de l'histoire. Et j'ai comme fait, wow, ben, merci. Puis je l'oublierai jamais, ça. Parce qu'il aurait pu juste dire, oui, ça m'intéresse. Puis. J'aurais jamais été fâché, tu comprends? C'est pas lui qui a décidé de ne pas travailler avec moi, c'est un organisme qui a décidé, c'est une organisation qui a décidé de faire appel à lui puis pas à moi. J'aurais pas été fâché après Kevin, mais non, c'est un gars qui est loyal. Puis quand tu es du bord à Kevin, tu l'es à vie. Puis je me compte chanceux de pouvoir travailler avec lui maintenant avec Netflix. Puis on avait tellement hâte de pouvoir l'annoncer parce que, tu sais, dis-toi qu'on est passé de 1 heure de Raw qui est diffusé les lundis. On avait 1 heure à TVA Sport par semaine. Et là, on a la plus grande offre francophone de l'histoire de la lutte au Québec. Parce que là, on a les 2h30 de Raw les lundis, on a les 2 heures d'NXT, on a SmackDown le vendredi qui était de 3 heures, qui est maintenant rendu de 2 heures. Puis on a tous les ce qu'on appelait avant les pay-per-view, maintenant les PLE, c'est-à-dire les WrestleMania, SummerSlam, Royal Rumble de ce monde. Mais on a tout ça maintenant de disponible en français. On n'est pas encore live. Nous, on travaille en direct. Nous, on le fait quand le show a lieu. Mais c'est diffusé 36 heures environ après, parce que Netflix n'a pas encore la technologie lui permettant d'avoir 21 langues différentes en direct. Il travaille là-dessus, on nous dit d'ici le mois de mars l'année prochaine, ou en tout cas début de l'année 2026, ça devrait être réglé et tout le monde va finir par être live, peut-être même graduellement, c'est une bonne nouvelle. Mais pour l'instant, pour le kid, pour la personne qui ne parle pas anglais, qui veut écouter et qui veut suivre le produit, ben, il peut quand même le faire, comme un petit peu décalé, mais au moins, il peut écouter ses émissions de lutte préférées en français. Puis ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Puis je suis vraiment, vraiment fier de pouvoir en faire partie encore.
Puis ça se passe comment quand vous travaillez pour Netflix? Vous devez enregistrer. Est-ce que vous enregistrez directement de vos résidences? Est-ce que vous êtes dans un studio? Ça se passe comment?
Non, en fait, nous, c'est la WWE qui nous engage.
Ouais.
Et puis, il nous a envoyé à tous les deux le matériel nécessaire. Et on le fait chacun chez nous. On se voit à travers Zoom. Fait que comme ça, tu sais, on a au moins cette... tu sais, je vois Kevin. Pour moi, c'est important d'avoir ce contact visuel-là. Mais sinon, on le fait à distance. Fait que tu sais, on fait du télétravail en plus.
Ouais.
Tu sais, c'est pas beau, ça. On fait cet hiver, là. C'était-tu parfait? J'avais même pas besoin de sortir dehors. Il fait froid, il fait pas froid, il neige pas. Ça me dérange pas. Moi, je m'installe devant mon écran. Je commente la lutte pendant 2h30. Puis à 10h30, le show est fini. À 10h31, je suis chez nous. Là. C'est parfait, tu sais. Fait que ça, c'est cet avantage-là. Donc, non, pour vrai, c'est vraiment cool. Puis l'équipement, il est vraiment, vraiment solide. Là. Moi, j'ai des amis, tu sais, qui sont justement dans le milieu, qui ont écouté, puis ont fait le son, il est A1, mais ça, c'est l'équipement qui nous envoie. Pour vrai, c'est super bien fait. C'est facile
parce que moi,
pour nous.
Moi, tu me flabbergasses. Moi, je suis en radio. J'ai quand même une bonne oreille. Puis, j'aurais pas pensé que tu étais à la maison. Là.
Ben, tu vois, ce commentaire-là, je l'ai eu à plusieurs reprises. Puis c'est ce que je trouve le fun. T'sais, on est rendu là dans la technologie. Ouais. Ben, tant mieux. Tu sais, il y en a qui travaillent dans des studios parce que nous, on voit les Zooms de toutes les autres équipes. Il
ouais.
y en a qui travaillent dans des studios ensemble. Nous, ben, je veux dire, on tu sais, pourquoi débourser pour louer un studio ou se déplacer en plus quand on le fait quand tout ce qui est demandé, c'est de le faire chacun chez nous. Puis pour vrai, on a trouvé une routine avec ça. On a trouvé une façon de travailler parce qu'il ne faut pas oublier. On faisait 45 minutes là, de commentaires avant et de traduction, de promo et d'entrevue. Là, on en fait 7,5-8 par semaine, plus les pay-per-view. Fait que là, c'est différent. T'sais, on avait un montage, un match qui avait duré 12 minutes à Raw. On en avait des fois 7-8. Là, on a le 12 minutes au complet. T'sais, on a le show au complet. Fait qu'avant, on était dans le tapis tout le temps. Là, il faut apprendre à se pacer. Il faut apprendre. On voit des défauts de l'autre qu'on n'avait pas le temps de voir en 45 minutes. Fait que là, il faut s'adapter aussi à ça. On a chacun notre énergie. C'est pas pareil de passer 2h30 devant un écran que de passer 45 minutes en studio. Fait que, il y a tout ça qu'il a fallu s'habituer. Mais je te dirais que là, ça fait un peu plus de 6 mois là, qu'on fait ça. Puis on est parfaitement rodé. Puis c'est rendu, je ne veux pas dire facile dans le sens que je ne veux pas diminuer le travail qu'on fait. Mais ça se fait super bien. Super.
Raw va s'amener à Montréal, SmackDown va s'amener à Québec. Est-ce que vous...
L'inverse.
C'est l'inverse, excuse-moi. Est-ce que vous allez vous déplacer directement sur place ou vous allez rester quand même à la maison?
À ce jour, ce qu'on nous a dit, c'est qu'on n'était pas sur place.
OK.
Parce que, tu sais, notre job à nous, c'est de commenter l'action de chez nous. Que le show soit à Toronto, à Dallas, à Tokyo, on l'a fait de Riyad en Arabie Saoudite, on l'a fait de Londres. Les heures, des fois, changent parce que maintenant, ils font les shows en direct à l'heure locale. Fait que des fois, ça nous arrive de travailler en après-midi parce que, 8 heures, heure locale, ça donne, mettons, 3 heures de l'après-midi ici.
Ouais.
Mais c'est ça notre travail. Fait qu'ils soient à Montréal ou à Québec, ça ne change rien. Pour mon boss, notre boss à nous. Maintenant, c'est sûr qu'on travaille à essayer d'être là, mais c'est pas évident, c'est pas toutes les équipes. T'sais, on a fait des shows en direct d'Italie, puis il n'y avait pas les commentateurs italiens à ringside, t'sais, ou d'Espagne, puis il n'y avait pas les commentateurs espagnols non plus. Donc, t'sais, c'est vraiment la production qui décide ça. T'sais, nous, notre boss peut suggérer, hey, on a une équipe à Montréal ou au Québec qui pourrait être là ringside, en avez-vous besoin? Puis c'est vraiment la production de l'émission qui va dire, ah ouais, peut-être ça serait bien d'avoir une table de plus, on pourrait faire telle affaire. Mais s'ils n'en ont pas besoin, ils n'en ont pas besoin. Puis notre travail, nous, ça reste de commenter l'action qu'on voit indépendamment de où elle provient. Alors ça, c'est sûr que à ce niveau-là, tu sais, moi et Kevin, on avait l'habitude, par exemple, d'aller couvrir WrestleMania. Bien là, cette année, WrestleMania, on l'a fait de la maison. Là. On n'était pas à Vegas. T'sais. Fait que ça vient changer un peu ces habitudes-là. C'est peut-être le seul côté un peu plus plate. C'est que, tu sais, avant, on aimait ça aller voir les shows en direct. Puis à un moment donné, j'ai fait réaliser à Kevin, j'ai dit, tu réalises que dans la mesure où ils ne nous amènent pas au Québec, pour les shows au Québec, ça se peut, ça peut prendre des années avant qu'on revoie un événement de la WWE en personne. Puis comme,
c'est parce que vous êtes aussi des porte-parole de la lutte, puis je pense que ce serait avantageux pour eux de vous laisser sortir puis aller voir les foules. Moi, je me souviens de t'avoir vu et d'avoir vu Kevin Raphaël. Surtout Kevin Raphaël, je l'avais vu, je ne me trompe pas. C'était au stade municipal, il y avait un show de lutte, un gala de lutte. Puis quand il est arrivé dans la place, tout le monde savait qui était Kevin Raphaël, puis il serrait la main. Tu sais, tu peux mettre un visage sur les voix qu'on entend. Tu sais.
Ouais,
puis
les
gens étaient contents de vous voir, puis de vous serrer la pince, puis de vous jaser, puis de parler de lutte avec vous autres. Fait que j'espère que c'est quelque chose auquel ils devront penser dans les 5, 10, 15 prochaines années, de vous faire sortir quand ça arrive dans vos villes respectives. Parce que
je pense que ça peut aider.
Ben oui.
Ça peut aider à avoir justement, peut-être pas, je veux pas nous lancer des fausses fleurs et penser qu'on va vendre des billets si on est plus, nos visages sont plus là, mais c'est sûr que ça crée un sentiment d'appartenance plus fort quand tu reconnais les voix que tu entends, quand tu peux les rencontrer. Tu sais, moi, je me souviens, plus jeune, j'étais content de rencontrer, j'avais déjà rencontré Édouard Carpentier ou Gino Brito. Tu sais, j'étais content de les rencontrer, puis même des journalistes. Moi, je lisais le Journal de Montréal. Je me rappelle avoir déjà demandé un autographe à Bertrand Raymond. Tu sais, je tripais, tu sais, je le lisais à chaque matin.
Ouais.
Fait que, tu sais, oui, je comprends cet aspect-là, puis tu as raison, mais c'est une grosse machine, la WWE. Tu sais, c'est surtout maintenant, ça a été acheté par Endeavor, puis c'est TKO, qui est la grosse compagnie en arrière du UFC, puis de la WWE. C'est gros, puis je ne suis pas sûr qu'ils pensent à tous ces détails-là. Oui, c'est à nous autres de leur dire, puis on leur dit, mais au final, Montréal je dis Montréal comme n'importe où ailleurs, c'est qu'ils ont un show à rouler, puis ils ne penseront peut-être pas nécessairement à ces détails-là. T'sais, ils vont dire, regarde, l'aréna est pleine de toute façon. Des fois, c'est pas toujours pensé de la bonne façon. Je comprends d'où ils arrivent avec ça, eux autres. C'est au final, on a-tu fait de l'argent avec le show? Oui, OK. On passe, c'est beaucoup de shows dans une semaine. Il y a beaucoup d'organisations en arrière de ça. Je comprends d'où ils arrivent avec ça. Est-ce que je trouve ça décevant pour les fans et pour nous? Oui. Mais à un moment donné, moi, j'ai ma job à faire puis je vais continuer à la faire. Parallèlement, par contre, moi et Kevin, on garde un lien avec les fans à travers nos podcasts, par exemple. Parce que nous, on a le droit de garder nos podcasts. On a des podcasts, on a les Antipodes de la lutte qui sont sur Cube. On a notre Patreon également. On fait des entrevues. On fait des fois des podcasts devant public. Fait que, on continue à être présent d'une autre façon. Mais c'est sûr que, je vais parler pour moi, il y a eu un avant et un après TVA Sport pour moi.
Ah ouais.
Et c'est normal. Et là, on m'entend sur Netflix puis on me voit pas. Fait, c'est sûr que ça sera pas la même chose. C'est de revenir à l'époque des animateurs radio qui étaient uniquement à la radio parce qu'il y avait pas de réseaux sociaux puis c'était pas filmé dans les studios. Mm-hmm. On entendait des voix, mais moi, je me souviens, il y avait un animateur que tu as sûrement connu qui était à Montréal, à C'est quoi pendant longtemps, Denis Fortin.
Ben oui.
Moi, j'écoutais le 6 à 6 avec Denis Fortin.
C'était Coco!
À tous les jours. Mais tabarnouche, j'aurais pas pu te l'identifier dans une foule.
OK.
Et là, à un moment donné, parce que j'ai fini par le rencontrer en personne, puis dans un événement, mais tu sais, mon adolescence, là, Denis Fortin, je savais pas c'était qui, là. Tu sais, c'était une voix. J'aurais pu reconnaître cette voix-là, les yeux fermés. Mais son visage ne m'était pas familier parce que on ne le voyait pas. Il n'y avait pas de caméra dans les studios. Il n'était pas nécessairement à la télé. C'était un animateur radio. Fait que, tu sais, on est un peu dans cette case-là, nous, sur Netflix, où on parle. Nos voix sont reconnues. Moi, souvent, je me fais dire, je reconnaissais ta voix. J'ai reconnu ta voix. C'est encore le cas aujourd'hui. Mais effectivement, c'est sûr, ça serait cool si on pouvait être là, si on pouvait être plus présent dans la promotion. Mais chaque chose en son temps, c'est la première année qu'on est sur Netflix. On n'est pas là pour. On est là pour plusieurs années. On s'en va pas tout de suite. Fait que c'est chaque chose en son temps, puis on va avoir le temps de leur faire comprendre comment, comment le marché de Montréal puis Québec, c'est important pour eux autres.
Exact. On a le plaisir de passer la soirée en compagnie de Pat Laprade, historien, animateur de la lutte sur Netflix. Pat, pour les gens qui veulent avoir accès à tes livres que tu as écrits, on peut les trouver dans toutes les bonnes librairies, mais toi, on peut-tu aller sur ton site Internet?
Non, j'ai pas de site. Je te dirais sur Amazon. C'est la même Amazon plus que les librairies.
Ouais.
Parce qu'après un certain temps, les librairies, les commandes uniquement sur demande. Là. Tu sais, c'est si tu le demandes, ils peuvent aller te le commander puis t'appeler quand ça va être prêt. Mais sinon, Amazon demeure la place la plus simple. Pour ceux qui ne veulent pas magasiner sur Amazon, ben oui, rendez-vous dans des Renaud-Bray, dans des Archambault, à votre librairie locale. Et techniquement, les titres qu'ils sont encore capables d'avoir, ils vont les avoir.
C'est quoi, c'est quoi ton plus gros vendeur que tu as fait depuis...
Le Géant Ferré.
Géant Ferré, hein?
Ouais. Le Géant Ferré, là, entre la version française, anglaise, numérique et audio, moi et Bertrand Hébert, avec qui j'ai écrit ça, je pense qu'on est à 26-27 000 copies de vendues.
Wow, OK.
Pour de la lutte, là, c'est quand même niché de la lutte. Là, c'est vraiment excellent.
Puis avez-vous vendu en Europe aussi? J'imagine que oui. Jean Ferré, c'était une légende
ouais,
aussi.
Oui. À travers les librairies du Québec, à Paris, entre autres, ça se vend là. Mais il était disponible sur Amazon, Amazon.fr, Amazon en Australie, Amazon le Royaume-Uni. C'était disponible un peu partout. Là,
all right, on fait une courte pause et on revient tout de suite.
Marceau, le soir.
Boulevard 102.1.
Que tu prennes tes vacances ici ou ailleurs, peu importe quand tu pars et où tu vas, traîne Boulevard 102.1 dans tes valises. L'application Boulevard 102.1.
Depuis 1964, le Centre Castor est la référence plein air à deux pas de Québec. Venez passer un moment en famille ou entre amis dans nos yourtes situées au bas des sentiers de vélo de montagne et de notre terrain de golf 18 trous. Tout y est pour une escapade parfaite. Centrecastor.com.
Avec l'appli Desjardins Assurance, vous pouvez gérer votre dossier vous-même en toute simplicité de n'importe où, même d'ici.
Ah ouais?
Et ils ont de l'expérience, plus de 3 générations.
Ça change quoi?
Ben, imaginez si vous faisiez du camping sauvage tous les jours depuis 3 générations.
Ah, Moses, on a oublié les allumettes.
Pas besoin de ça, donne-moi 2 roches. Passe-moi une saucisse.
Desjardins Assurance, c'est pas d'hier qu'on assure. Ça, ça rassure. Téléchargez notre appli. Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s'appliquer.
L'achat de ton prochain VUS pour maximiser ton temps, ton argent et pour un service après-vente personnalisé, c'est chez Germain Chevrolet Saint-Raymond que ça se passe. Nous avons la plus grande gamme d'utilitaires sport. Que vous cherchiez le grand luxe, l'électrique ou un bon rapport qualité-prix en achat ou en location, on a plus de 17 modèles différents en inventaire pour tous les styles et tous les budgets prêts à livrer. Chevrolet, Buick et GMC. Le choix incontournable pour ton VUS à proximité de Québec, c'est l'équipe de Germain Chevrolet Saint-Raymond.
C'est pas pour rien qu'Abba, c'est le choix du consommateur depuis plusieurs années. Nos estimations sont gratuites, nos interventions sont rapides. Chez Abba, on vend du résultat. Il y a plus de 1000 avis en ligne qui prouvent que notre solution, ben, elle fonctionne. AbbaExtermination.ca ou appelez-nous maintenant au 666-6667. Abba, une solution définitive.
Besoin de cèdre pour vos projets extérieurs? Le cèdre de l'Ouest et le cèdre du Québec sont en vedette chez Limaco. Particulier ou entrepreneur, Limaco a un vaste choix de cèdre à très bon prix. Limaco, spécialiste en vente de bois depuis plus de 25 ans. Limaco.ca.
Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec du palmarès Via Capital. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com. Courtier immobilier Via Capital. SimonLaberge.com.
Découvrez un musée à ciel ouvert unique au Canada à Saint-Georges-en-Beauce. Plus de 100 œuvres d'art public à explorer gratuitement, à pied ou à vélo, au cœur de la nature urbaine. Seul, en famille ou entre amis, vivez une expérience culturelle différente. Planifiez votre visite sur beauxarts.com.
Oh, shérif, c'est une sacrée monture que t'as là.
Merci, Billy.
Où est-ce que t'as dégoté une monture pareille?
Bah, chez New Look. Ils sont tout plein de montures.
Ah, monture!
Il y a 50% de rabais sur nos montures chez New Look. Jusqu'au 13 juillet, des conditions s'appliquent. Chantal Gravel, opticienne.
L'application Boulevard. Dans une poche près de chez vous. Poche de jeans. Poche de shorts. Pis même ta poche d'hockey. Appelez, textez, votez, réécoutez. L'app Boulevard 102.1. C'est plus que du rock. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau le soir.
Quel plaisir ce soir d'être en compagnie de Pat Laprade, un auteur, un historien, l'animateur de la lutte sur Netflix. Pat, on en parlait tantôt, j'avais malheureusement changé les spectacles de ville. Québec va recevoir Raw et Montréal va recevoir SmackDown. C'est quoi la différence entre les deux spectacles?
Raw, c'est l'émission phare de la WWE. C'est celle qui est là depuis 32 ans maintenant. Ça, c'est Québec qui va avoir la chance de l'accueillir le 11 août prochain au Centre Vidéotron. Il y a, dans la nouvelle, il y avait entre 7 et 8 000 billets, entre 7 500 et 8 000 billets de distribués, là, c'est ce qui est très bien. Là, si on peut atteindre le plateau des 10 000, là, ce serait excellent pour Raw à Québec. Évidemment, c'est pas non plus les mêmes alignements. Il y a des lutteurs ou lutteuses qui vont faire des fois les deux émissions, tout dépendamment des histoires qu'on raconte. Mais il y a des lutteurs, lutteuses qui sont propres à SmackDown, donc qui sont propres à Raw également. Trois jours avant, donc le vendredi, c'est SmackDown à Montréal. Au Centre Bell, on approche les 10 000 billets distribués là, pour cet événement-là. Fait que ça va très, très bien. Et puis, ben, techniquement, le Québécois, Sami Zayn, ben, écoute, moi, je serais surpris qu'il ne se retrouve pas sur les deux shows. Là, parce qu'on comprend l'importance, surtout avec la blessure de Kevin Owens qui va se faire opérer pour le coup là, dans les prochaines semaines, ben c'est sûr qu'on n'aura pas Kevin à ces émissions-là, à ces spectacles-là. Donc, j'ai l'impression qu'on va faire venir Sami à Montréal et à Québec. Question de donner un petit pop local, un petit bonbon local, même s'il n'est pas à l'émission comme telle, mais qu'on l'amène après, parce qu'il y a souvent des combats ou des segments avant et après que le show soit en onde comme tel. Donc, je pense que les gens de Québec et Montréal ont des bonnes chances de voir Sami Zayn. Par contre, ce qui est intéressant pour Montréal, c'est que John Cena, cette icône de la lutte professionnelle qui en est à sa dernière année, donc qui fait sa tournée de retraite. Puis là, comme on le sait, ben John Cena est rendu un méchant, un vilain. Ben là, il va venir à Montréal pour une dernière fois. Donc ça, c'est exclusif à Montréal. Il n'a pas du tout été annoncé pour Québec. Puis il y a quand même des dates sélectives. Là, Cena, là, il reste pas. Il fait pas toutes les émissions, il fait pas tous les shows. Donc Montréal, le 8 août, à SmackDown, John Cena, il sera pour une dernière fois. Donc c'est sûr que ça, c'est un intérêt supplémentaire qui est intéressant.
Est-ce qu'ils font ça partout? T'sais, est-ce qu'ils sont très attentifs là, pour ce qui est de Kevin Owens? Bon, ça, c'est triste. Il s'est blessé. Tu nous expliqueras c'est quoi sa blessure. Tu me dis qu'il est blessé au cou. Mais est-ce qu'ils font ça partout? Ils sont très attentifs aux vedettes locales? T'sais, dans le cas de Zayn, dans le cas de Kevin Owens, bon, c'est des francophones. Ils savent qu'ils sont dans un territoire francophone aussi, autant à Montréal qu'à Québec. Quoique Montréal, c'est quand même compliqué de savoir que c'est encore un territoire francophone à certains endroits. Là. Mais ils sont très alertes là-dessus. Puis est-ce qu'ils font ça ailleurs?
Ouais, là, en fait, c'est mieux qu'avant. Ouais. C'est mieux qu'avant. Il fut une époque où c'était compliqué leur faire comprendre c'était quoi le territoire du Québec, puis pourquoi c'était important d'avoir des francophones bien positionné puis bien publicisé pour avoir plus de gens à leur show. Mais maintenant, c'est beaucoup mieux compris. Puis bon, à partir du moment qu'ils ont vu justement la popularité de Kevin et Sami dans les dernières années, ben là, ils savent à quoi s'attendre maintenant avec ça. Ils le font parfois. Tu sais, il y a un lutteur Axiom, par exemple, qui est un lutteur masqué, qui lutte habituellement en équipe. Bon, on lui a donné un gros... C'est un lutteur qui vient d'Espagne. Bon, on lui a donné un gros match en simple lorsqu'on a fait un show en Espagne le printemps passé. Fait que de temps en temps, on va utiliser la nationalité locale de la personne ou même aux États-Unis. Tu sais, Bianca Belair vient du Tennessee. Bien, quand on a fait un show au Tennessee, on lui a donné quelque chose d'un peu plus spécial. Ça, comme je dis, ça n'a pas toujours été le cas, mais là, je pense qu'on est plus conscient de ça avec la nouvelle administration. Donc ça, c'est intéressant. Ici, ou dans d'autres pays. Aux États-Unis, c'est une chose, tout le monde finit par parler anglais. Fait que, tu sais, c'est pas la même chose que venir à Montréal avec des francophones ou aller en Espagne avec, tu sais, des gars, des filles locales qui parlent la langue aussi de la place. Donc, tu sais, ça, c'est important aussi. Mais, tu sais, on a fait des shows en Écosse. Bon, on a mis de l'avant Drew McIntyre. Donc, tu sais, qui est un Écossais. Donc, tu sais, on essaie de plus en plus de le faire parce que je pense qu'on voit le plus-value de le faire, justement.
Kevin Owens s'est blessé comment? Parce que tu me dis qu'il est blessé au cou. C'est-tu lors d'un catch, d'un match?
Non. Il sait pas vraiment lui-même. Tu sais, je veux dire, Kevin prend des bumps depuis qu'il a 16 ans. Fait c'est sûr qu'à un moment donné, tu sais, le cou, c'est pas le seul à avoir eu des blessures au cou. Ils sont nombreux à avoir eu des blessures à cet endroit-là. Puis tout était correct jusqu'à quand qu'une journée, ça soit plus correct. Tu sais, puis là, qu'il y ait vraiment une douleur intense. Puis... il y a eu la douleur, mais il y a eu aussi, à un moment donné, il a passé des tests pour d'autres choses, puis là, ils sont aperçus que, tu sais, il y avait un problème au cou, puis ils ont dit, tu peux même plus prendre un bump, là. Genre, ça serait dangereux pour ta vie si tu prends quand je dis un bump, là, c'est, tu sais, quand tu tombes
sur le ring, sur le dos,
mais peu pas, oui, il y a une façon de tomber, mais c'est quand même un choc sur ton corps. Et on lui a dit, là, il faut que tu arrêtes tout. D'ailleurs, il y avait un match prévu pour WrestleMania, puis on n'a jamais pu le donner parce que, justement, il ne pouvait juste plus lutter. Puis ça a pris du temps avant qu'il trouve exactement la source du problème, puis c'était quoi qu'il avait besoin comme opération, parce que c'est bien beau de l'opérer, mais il faut encore que tu saches qu'est-ce qu'il y a, puis quelle opération il a besoin. Dans le fond, en anglais, il appelle ça un « neck fusion », donc une genre de fusion ici au cou avec les vertèbres. Et c'est ça qu'il a besoin. Une opération que plusieurs lutteurs ont passé par là. Tout dépendamment du degré de sévérité de cette blessure-là, puis ils ne sauront pas tant qu'il ne sera pas sur la table d'opération. Bon, on ne peut même pas dire quand il va pouvoir revenir. Dans le meilleur des mondes, quelques mois, puis on va pouvoir commencer à le revoir. Dans le pire des pires, puis je ne vais pas être alarmiste, mais je regarde un jeu comme Biggie, qui était un lutteur avec le New Day, mais ça fait des années, puis il n'a plus jamais été capable de revenir. Donc, tu sais, tu sais jamais, quand tu commences à jouer dans ces endroits-là, tu sais jamais ce que ça va donner. On lui souhaite évidemment que tout se passe bien, puis qu'il puisse revenir, puis que tout soit correct, mais on ne sait pas la réalité, c'est qu'on ne sait pas là, en ce moment.
Ils ont-tu des assurances, ces lutteurs-là? Parce que, je veux dire, ils jouent avec leur corps pas pire. Là. Je veux dire, au même titre que les joueurs de football ou les joueurs de hockey, bon, tu sais, la lutte, on dit, c'est du théâtre synchronisé, mais moi, je peux pas. Tu sais, puis je vais vous parler de mon expérience après, mais c'est du sport en sacrifice, puis ça fait mal sur le corps après un certain temps. Ils ont-tu des assurances pour couvrir, des fois, là, justement, ce genre de blessure-là?
Toutes ces opérations-là, c'est payé par la WWE. Depuis des années, c'est eux autres qui s'occupent de ça. Ils ont un médecin, entre autres, en Alabama, qui est très, très, très réputé. Puis, ils prennent soin de leur monde à ce niveau-là. Donc, tu sais, ce qui était pas nécessairement le cas, tu sais, dans les années 80, mettons, un lutteur local se blessait, bien, il fallait qu'il s'arrange lui-même. Puis non seulement il fallait qu'il s'arrange lui-même, il pouvait pas lutter pendant ce temps-là. Et quand tu luttes pas, ben, t'es pas payé.
Ouais.
Parce que t'as pas des contrats garantis à l'époque. Puis d'un, tu gagnais pas des millions, mais de deux, en plus, c'était pas des contrats garantis. Donc, à partir du moment où t'es pas garanti et que tu luttes pas, ben, t'es pas payé, t'as pas de job. Alors, ce qui arrivait, c'est que les gars choisissaient les raccourcis. Ouais, une opération, ça va être 8 mois d'inactivité, mais si on fait juste un peu de physio, ben, tu vas pouvoir revenir dans un mois. Ben, Colin, je vais revenir dans un mois. Mais là, ça fait que les blessures sont pas soignées comme elles devraient. Et tu traînes ces blessures-là pendant longtemps. Puis c'est pas pour rien qu'il y en a qui ont mal vieilli aussi ou qui ont vieilli avec des médicaments contre la douleur, des painkillers, puis tu sais, tout ce qui peut s'en venir. Donc, aujourd'hui, c'est complètement différent. Puis la WWE s'occupe de ces lutteurs, de ces lutteuses. Fait que tu sais, une opération comme ça, ça coûtera rien à Kevin.
Non. Puis est-ce que son salaire est versé quand même, même s'il est laissé?
Ah, ouais. Oui, parce que maintenant, c'est des contrats garantis.
Ah, ouais.
Ce qui arrive parfois, c'est qu'on va donner, mettons que la personne a signé pour 5 ans puis qu'il s'est absenté pendant 6 mois, bien, à la fin de son contrat, ça se peut qu'on extensionne de 6 mois son contrat. Mais il va quand même être payé. C'est juste que des fois, ils vont rattraper, puis ça, c'est toutes les compagnies de lutte qui font ça, ils vont rattraper le temps qu'ils n'ont pas pu bénéficier du lutteur. Mais ils vont juste l'extensionner. Il va quand même être payé au prix qui était supposé être payé. Là, donc, okay. Donc c'est quand même une... Puis ils sont payés beaucoup plus cher. T'sais, je veux dire, des lutteurs qui sont millionnaires maintenant, là, il y en a un puis un autre. Là. Ce qui n'était pas nécessairement le cas il y a 25-30 ans.
OK. Parce que, tu sais, moi, j'ai eu une petite expérience de lutte. Là. On avait fait une campagne de financement avec la NSPW. Ouais. Steve Boutette, on s'était jasé puis on se dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la Bouchée généreuse, qui est un organisme qui nourrit des enfants et des familles à travers le Québec, mais surtout précisément à Québec. Des milliers de personnes qui ont besoin de cette ressource-là. Puis on avait fait un gala de lutte. Puis j'avais dit à Steve, garde, je vais lutter. Mais moi, je pensais pas que ça impliquait autant sur le corps. Puis bien honnêtement, le premier cours, juste pour m'envoyer faire les fameux bumps, là, c'est-à-dire de tomber sur le dos, le cerveau, il comprend pas que tu veux t'envoyer intentionnellement sur le dos. Donc, ça prend une certaine adaptation là, de te laisser aller à l'horizontale sur le dos. Puis Steve m'avait montré une façon de tomber qui faisait en sorte que je réduisais le choc, puis pas pire. Mais il n'en demeure pas moins que pour ces gars-là qui font ça chaque jour pour s'entraîner, ça ne doit pas vraiment être évident. T'en connais-tu des lutteurs qui sont pas blessés? J'ai l'impression qu'ils doivent lutter, même blessés tout le temps, là.
Ben tout le monde a des petits bobos parce que c'est quand même très physique, tu sais, ça va être du théâtre, c'est quand même des cascadeurs qui font leur culbute live devant un public, donc tu sais, tu peux pas être aussi tough sur ton corps et jamais avoir des petits bobos, mais il y a une différence entre, tu sais, des petits bobos qui s'arrangent ou tu sais, qui se traitent relativement facilement avec une vraie blessure, puis il y en a, là. Puis une autre chose qui va arriver, c'est que ce qu'on appelle en anglais le wear and tear, là, c'est-à-dire c'est l'usure sur le corps fait en sorte qu'à un moment donné, ça se peut que tu te blesses plus sévèrement, mais pas parce que ce que tu as fait, c'était si intense, c'est juste que là, ton corps est rendu, tu sais, il est rendu tellement effrité qu'à un moment donné, ben, ça se peut que l'os finisse par casser ou qu'un ligament finisse par déchirer parce que tu l'as tellement usé que là, il n'y a plus la même résistance. Mais tu parlais de bumper, puis ça me faisait penser. Moi, j'ai appris aussi quand j'ai fait mes débuts dans le monde de la lutte, j'étais gérant et on m'a appris à tomber justement pour éviter que je me blesse. Mais... Tu sais, une des choses qu'on nous apprenait, c'est de rentrer la tête par en dedans, c'est pour que le menton vienne chercher ici le torse, parce que la pire des blessures, puis ça, on l'a vu avec les années, puis c'était peut-être pas à mode il y a 25 ans quand j'ai commencé, mais ça l'est devenu important, c'est les blessures à la tête. Tu sais, il y a combien de lutteurs on fait en vieillissant, tu sais, ce qu'on appelle les CTE, avoir des problèmes cognitifs, faire de la démence, faire de l'Alzheimer, tu sais, ça parce que, tu sais, moi, je me souviens avoir parlé à tellement de lutteurs qui me disaient, j'ai jamais fait ça de commotion, mais ça m'arrivait de voir des étoiles des fois. Ben oui, qu'est-ce que tu penses, c'était des étoiles, buddy? Tu sais, c'était clairement ça, des commotions.
J'ai jamais fait de commotion, mais il te le dit en bégayant.
mais tu sais, à ce moment-là, dans les années 50, 60, même les années 80, 90, tu prenais deux Tylenol, tu allais au bar, tu passais ton mal avec une coupe de verre, puis le lendemain, tu te relevais puis tu recommençais. À cette heure, ils ont des protocoles. Ils vont même arrêter un combat en plein milieu du combat s'ils voient ou ils sentent qu'il y a eu un coup à la tête qui a été ou tu sais, t'es mal tombé. Fait que c'est beaucoup mieux suivi maintenant que ça l'était, mais c'est sûr que c'est très, très, très physique sur le corps. Et ce qui est le fun maintenant avec la WWE, par contre, c'est que l'horaire est beaucoup moins intense. Tu sais, il y a une couple d'années, c'était encore 300 shows par année. Puis là, on parle plus de 200 maintenant. Fait que quand tu regardes le nombre, tu sais, moi et Kevin, là, on pense faire à peu près 175 shows en animation cette année. Ça veut dire, c'est, tu sais, il y a 3 émissions par semaine. Donc, c'est déjà là, c'est 156 émissions plus une vingtaine de PLE, d'émissions, tu sais, d'événements spéciaux. Et la WWE pense faire à peu près 200 shows. Fait qu'il reste juste à peu près 25 shows qui ne sont pas télévisés. Puis il y en a beaucoup, c'est en Europe, quand ils font des tournées en Europe. Puis il y a la tournée du temps des fêtes. Donc, c'est beaucoup moins pire qu'avant où il y avait des shows jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Tu revenais une journée, tu repartais le lendemain. C'est plus la réalité. Donc, veux pas, ben, tu sais, ton corps est moins exposé à ce genre de blessures-là. Et sont aussi beaucoup plus ouverts sur les congés. Il fut une époque où ta femme accouchait, ben on a un show buddy, fait qu'il faut que tu fasses ton show, puis tu iras la rejoindre après. Alors que maintenant, ben les lutteurs vont avoir congé si leur conjointe accouche. Même pour les enfants, ils vont donner des congés s'il y a des événements spéciaux, des trucs quand même. Donc, on est beaucoup plus au goût du jour par rapport aux cédules, aux horaires que les lutteurs, lutteuses de la WWE peuvent avoir.
Pat Laprade, moi, j'ai eu la chance de lire presque tous tes livres. Il y a une série que j'ai pas encore faite, la série Raconte-moi, là, mais tu m'as fait triper avec l'histoire de Maurice McDoug Vachon. Tu m'as fait triper avec l'histoire du géant ferré. Il y a la série Raconte-moi aussi qui semble être extrêmement intéressante, qui touche un peu plus les adolescents puis les adultes. Est-ce que tu as des projets d'écriture sur d'autres personnes qui ont marqué peut-être notre enfance ou les dernières années?
Oui, Bertrand Hébert et moi, on travaille, mais c'est un travail de longue haleine, donc on n'a pas vraiment de date butoir par rapport à ça, mais un livre sur Dino Bravo.
Ah oui?
Mais pour l'instant, notre entente est en anglais avec notre éditeur ici, W Press à Toronto. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une version française. C'est juste que pour l'instant, notre entente est avec ici, W Press. Et ce ne serait pas une biographie comme on a fait avec Maddox Vachon ou Jean Ferré. Ce serait plus comme un true crime story. C'est-à-dire basé un peu plus sur, on sait comment ça a fini, Dino Bravo.
Ouais.
Il s'est fait tirer chez lui à Laval en 1993 parce qu'il était impliqué dans le crime organisé. Et en true crime story, ça va être de bâtir l'histoire autour de ça. Donc, on va se servir de vrais faits, on va se servir de vrais témoignages, on va se servir d'un paquet de trucs qui est vrai, mais ça va être un peu plus romanesque comme bouquin et non pas nécessairement une biographie plus traditionnelle où on y va chronologiquement, on a des citations de gens et tout ça. Là, ça va être un peu plus proche de la fiction, mais basé sur 95% de vrai. Tu sais, il y a des conversations, j'imagine, qu'il va falloir inventer basées sur ce qu'on connaît. Évidemment, le but, c'est de savoir qui a tué Dino Bravo. Tu sais, ça va être ça un peu la thématique.
Ah, c'est intéressant.
En anglais, là, Who Killed Dino Bravo? Donc voilà, donc ça c'est vraiment, vraiment un projet qu'on a hâte de mener à terme. On n'a pas vraiment une date butoir là, bien définie pour ça. On va être sûr de le faire de la bonne façon. J'ai d'autres projets également, mais que je ne peux pas mentionner pour l'instant, mais un entre autres là, qu'on devrait être capable de mentionner bientôt, mais qui n'a pas un lien avec la lutte, qui a un lien avec d'autres trucs. Parce que j'ai aussi écrit des livres sur le hockey là, à travers les dernières années. Ouais. Donc voilà.
J'aurai le plaisir de te recevoir à ce moment-là quand tu pourras les annoncer. Pat Laprade, c'est toujours un plaisir de te jaser. Je sais que ça fait plaisir aux auditeurs. Il y a peut-être de nouveaux amateurs de lutte aujourd'hui grâce à toi. Tu es un bon ambassadeur pour ce qui est de la lutte, puis c'est toujours le fun de te jaser. Fait que je te souhaite de passer une belle soirée, de même qu'aux auditeurs. Puis pour les gens qui nous écoutent demain, on sera là à la même heure. Salut tout le monde. Bye-bye.
Marceau, le soir.
Cette année, vous aimeriez vivre l'expérience du Festival d'été de Québec?
Grâce à Boulevard 101 et Bleu Feu, ce sera peut-être possible.
Cette semaine, soyez à l'écoute de Boulevard. Vous pourrez courir la chance de gagner une paire de billets avant-scène or pour assister au show de Slayer au Festival d'été de Québec.
On se voit au FEC du 3 au 13 juillet prochain.
Boulevard 101 et Bleu Feu, fiers de vous faire triper sur les plaines cet été.
Les rabais de la circulaire de juillet sont arrivés chez Mondou. Épargnez jusqu'à 7 $ sur la nourriture sèche formule soin de marque Oven Bake Tradition pour chat ou chien. D'ici le 16 juillet, découvrez toutes les offres sur nos produits fabriqués et conçus au Québec, en magasin ou au mondou.com.
Tout se met en place pour un 5 à 7 réussi sur la terrasse du Maurice. Soleil toute la journée, ambiance élégante, musiciens tous les soirs et ce petit quelque chose d'invisible qui fait qu'on s'y sent bien. Avec ou sans réservation, visitez lemaurice.ca.
Germain Nissan Donnacona, c'est le concessionnaire Nissan à proximité de Québec qui t'offre un service après-vente personnalisé afin de maximiser ton temps et ton argent. Présentement chez Germain Nissan, profitez d'offres imbattables sur nos modèles les plus populaires, comme le Nissan Rogue VUS compact numéro 1 qui est offert à 0% de financement jusqu'à 60 mois sur version sélectionnée, ou encore le Nissan Sentra. Le choix numéro 1 est à vous en location à partir de 74 $ par semaine. Germain Nissan Donnacona, la destination payante par la 40.
Besoin de cèdre pour vos projets extérieurs? Le cèdre de l'Ouest et le cèdre du Québec sont en vedette chez Limaco. Particulier ou entrepreneur, Limaco a un vaste choix de cèdres à très bon prix. Limaco, spécialiste en vente de bois depuis plus de 25 ans.
Limaco.ca.
Cet été, prolongez le plaisir au Spa Infinima. À l'achat d'un massage de 60 minutes, recevez 30 minutes gratuites. Du lundi au jeudi, entre 9h et 16h. Spa Infinima. Trouver sa vraie nature.
On le sait que vous vous ennuyez déjà de nos belles voix. Ce sera pas long. On vient.
Pour un outfit de festival sacoche, pour un nouveau skate ou pour un t-shirt de band, viens nous voir chez ExoShop. On est la seule boutique spécialisée en articles promotionnels de band à Québec. ExoShop. Skate, musique et vêtements depuis 35 ans.
Vous cherchez un endroit spécial pour le brunch du dimanche? Venez goûter la cuisine du Moulin de Beaumont. Savoureuse, unique et servie dans un décor parfait pour un délicieux moment en famille avec une vue exceptionnelle sur le fleuve et l'île d'Orléans. Réservez votre place, moulindebeaumont.ca.
Chez Miville Climatisation, on est concessionnaire autorisé Mitsubishi Electric numéro 1 au Québec. On est même lauréat du prix Diamant témoignant de notre excellence. Grâce à nos thermopompes performantes chez Miville Climatisation, ça fait 57 ans qu'on garantit votre confort. Visitez miville.ca.
Grâce à Fred, notre petit bouffeur de prix IGA.
Allô?
Obtenez les plus bas prix avec les prix vérifiés garantis ou recevez automatiquement la différence en points Saint-Plus. C'est garanti.
Garanti!
Cette semaine, sur présentation de la carte Saint-Plus,